ces différents niveaux de dénomination du peuple. Pourquoi c'est appelé Aram, 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 et ensuite Né Israël, Né Israël. Une des explications se base sur le Midrash, c'est le Midrash Rabbah déjà, qui définit les cinq niveaux de la Neshama. Et alors je vous donnerai les termes. De la même manière qu'à l'échelle individuelle, il y a cinq niveaux d'identité dans la Neshama individuelle, de la même manière à l'échelle du peuple, il y a cinq niveaux d'identité. Alors voilà les intitulés que le Midrash nous donne en se basant sur les différents versets qui emploient des mots différents, cinq mots différents. Pour dire les différents niveaux de la Neshama. Bien, d'abord le Nefesh. Le Nefesh, c'est les forces biologiques. L'insertion de la Neshama dans le corps, c'est le niveau Nefesh. Ensuite le Ruach. Le Ruach, c'est toute la vie affective, les qualités, la vie spirituelle déjà. Puis, troisième niveau, Neshama, c'est le niveau intellectuel, de la conscience présente à elle-même, de la lucidité du moi qui se connaît comme présent à lui-même. Tout ça, il faut des mois pour apprendre, hein, de quoi il s'agit. Mais je vous donne des indications pour ça, pour diagnostiquer les différents niveaux. Et d'ailleurs, sur chacun des niveaux se reflètent les cinq. Et il y a... Dans le niveau Nefesh, il y a Nefesh de Nefesh, Roi de Nefesh, etc. Et ainsi. Il y a donc combien de niveaux en tout? 5 fois 5
25.
25. Et au-dessus, 26. Vous avez remarqué ce que ça veut dire, okay? Et alors, il y a, nous avons 25 niveaux de lettres à conquérir pour être Panim et Panim au niveau. Alors, ça, c'est un saut de la Kabbalah qui explique l'importance du mot ko, kave, ko amar Hashem, ko devarichu, ko tomorou. Et c'est 25 niveaux d'identité qu'Israël doit gravir pour être face à face avec le 26e. Vous avez compris comme ça, vermisa un peu ce que ça représente. Et alors, ces trois niveaux-là, Nefesh, Ruach, Neshama, chaque individu les possède. Et encore, je nuance, nous aimons tous à l'échelle individuelle, un Nefesh, un Ruach et une Achiza au niveau Neshama. Une étincelle de Neshama. Il faut se mettre à plusieurs pour qu'une Neshama soit présente. Mais Nefesh, Ruach, tous les individus les incarnent. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bien. Et il y a un cas particulier des individus qui, à eux tout seuls, ont une Neshama entière. On les appelle les Yechidim. Comment traduire Yechidim? Les uniques. À eux tout seuls, ils sont Israël tout entier. Ils ont une Neshama kolelet. Mais chaque individu, Stam, a une achiza au niveau Neshama, une étincelle de Neshama. Et parfois, c'est très très enfoui. Et plus haut, alors ça c'est vraiment les grands qui arrivent à incarner dans ce monde-ci ces niveaux-là, il y a Haya et Yechida. C'est les cinq niveaux. J'en dis pas plus. Et vraiment, on appelle les grandes lumières d'Israël arrivent jusqu'à la Yechida. Okay. Petite parenthèse, des choses qui nous sont cachées dans l'expérience de la vie, mais qui étaient connues par les sages de l'Antiquité. Vous savez que les peintures des grands hommes, des saints, par exemple chez les Goyim, des sages, la tête était entourée d'une auréole. Alors cette auréole est censée représenter les niveaux de la Neshama que la personne physique n'est pas capable encore d'incarner. Alors elle est entourée. Il y a des hachamim qui savent voir ces couleurs de l'auréole qui entoure les personnes humaines et qui savent même raconter les rêves qu'ils ont eus la veille. Alors, sachez qu'il ne faut pas fréquenter ces sages-là, ils savent tout. On leur casse rien. Non, pour vous dire que ça existe. Et alors, quand la Mishnah dit les hachamim, ne croyez pas que c'est des professeurs d'université. C'est de notre ordre. Okay. En tout cas, pour revenir au sujet, on retrouve ces cinq niveaux dans la collectivité d'Israël. Alors, les trois premiers niveaux s'appellent Aram, au niveau de Nefesh, Ruach, Neshama. Et les niveaux supérieurs s'appellent Bnei Israël. Ce qui explique la différence de conduite. Le Aram a été obligé de partir d'Égypte. Les enfants d'Israël étaient prêts à la guerre. Qui était prêt à être Beyad Rama, le victorieux de cette aventure, de la confrontation entre un tout petit peuple d'esclaves sorti de l'esclavage et la civilisation de ce temps-là. Dès que ce tout petit peuple est sorti d'Égypte, on voit qu'il y a une panique totale dans toute la civilisation de ce temps. Vous relirez attentivement la Shiratayam. Vous voyez ce que dit la Shiratayam. La panique absolue dans toutes les royautés de la civilisation du temps. Alors que quoi? Un petit peuple est sorti des grandes concentrations. Et remarquez à quel point c'est ce que nous vivons, toute proportion gardée de notre temps. Un peuple est sorti des grandes concentrations, 50 ans après, ça remue le monde entier. C'est chez la Tayam qui se passe dans les journaux tous les jours. Je ne sais pas si c'est clair, ce jeu. Pour ceux de notre âge qui avons vécu ce temps de la Shoah, le fait du contraste entre ce temps-là où le mot de juif c'était la pire injure, et puis notre temps, le mot de Israël, ça donne mal au ventre à l'ONU, et bien, et des palpitations dans toutes les capitales, c'est tellement énorme que si ce n'était pas écrit, on ne croirait pas. Je ne sais pas si c'est clair, c'est ce qui se passe là. Okay. Alors vous avez ces deux ensemble, le Ham et les Bnei Israël. Bien. Pour le moment, à ce stade du récit, ils sont distincts. Mais lorsque se passeront les événements de l'intégration du Hélera en Israël, ça sera le même ensemble. Mais à partir de ce moment-là, cette identité nouvelle d'un peuple qui inclut et les autres hommes, les autres lignées humaines qui ont eu la même expérience, esclavage, libération, mais qui n'avait pas, là je voudrais ouvrir une parenthèse, n'avait pas l'héritage, je n'ai pas dit hérédité, j'ai dit héritage, l'héritage de l'identité des patriarches. Le drame d'Israël, c'est que vous avez un ensemble humain de ceux qui ont l'héritage des midot des patriarches et de ceux qui ne l'ont pas, même si ils ont Torah Mitzvot. Est-ce que c'est clair, hein? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, hein? Je veux dire, une fois j'ai inventé une ligne qui n'est pas dans le Talmud, mais c'est interdit. Je crois qu'elle est dans un contexte bien précis. On ne perd pas de temps. Il dit cela. Quand Dieu a réparti les valeurs dans le monde, il a donné la Torah à Israël et le Derech Eretz Goyim. C'est énorme ce que je vous dis là. Hein? Et une des raisons pour lesquelles on va chez les Goyim, c'est pour apprendre le Derech Eretz Goyim. Et on ramène en général que leurs défauts et pas leurs qualités. Mais enfin, il y en a quand même qui savent ramener les qualités. Et ils avaient une Gemara, dans un contexte de Gemara très très clair, ce qu'on appelle dans l'étude talmudique un lav d'Afka. Quand la Gemara dit ça ne s'est passé que pour ça, on dit tout de suite là, il y a aussi d'autres raisons, mais c'est cette raison qui est mise en évidence. Ça veut dire Israël ne va en exil que pour recevoir le Derech Eretz de Goyim. Alors on dit là, pas que ça. Et on le ressent en général à travers les convertis qui s'intègrent en Israël. Et bon, c'est un sujet très, très important, mais je crois que je l'ai suffisamment éclairé d'après notre problème. Et ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un Derech Eretz d'Avot. Il y a un Derech Eretz de la Torah, qui est le Derech Eretz hébreu, qui n'a rien à voir avec le Derech Eretz de Goyim. Il y a des étincelles de sainteté dans le Derech Eretz de Goyim, mais il y a un Derech Eretz des Hébreux. Et la grande différence entre le Hébreu et les Hébreux, c'est qu'il leur manquait ce Derech Eretz. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je vous donne une indication importante. Alors qu'ils étaient prêts à recevoir la Torah, ils l'ont reçue. Mais qu'est-ce qui leur manquait? Le Derech Eretz préalable à la réception normale de la Torah, dans un exemple, entre Pessah, qui commémore la sortie d'Égypte, et Shavuot, la révélation de la Torah, on lit les Pirkei Avot. On étudie le Pirkei Avot. Et qu'est-ce que c'est le Pirkei Avot? C'est le Derech Eretz des Avot. C'est le Derech Eretz des patriarches, tel qu'il s'est transmis jusqu'au Tanaïm, qu'on appelle les Avot Arolam, puisqu'ils nous ont transmis le Derech Eretz des Avot Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est un problème extrêmement important. Il mène Derech Eretz en Torah. Et il mène Torah en Derech Eretz. Alors, c'est le drame de la société juive. Vous avez ceux du Derech Eretz sans la Torah, vous avez ceux de la Torah sans Derech Eretz, ceux de ni l'un ni l'autre, sans foi ni loi, et puis il y a, grâce à Dieu, les vrais juifs, enfin ceux qui ont l'un et l'autre. Vous savez où ils se trouvent, je n'ai pas besoin de vous dérouler la carte, mais elle va loin, jusqu'au jour même. En tout cas, pour revenir au problème, déjà, à la sortie d'Égypte, ça s'annonce. Regardez ce qui est, on reprend le premier verset. Suivez les Taramim. Il arriva, lorsque le pharaon lui renvoyé le peuple, Dieu ne les a pas conduits derrière par le chemin du pays des Philistins. D'après les Taramim, derrière est séparé de Erech Pelishtim. Bon, disons sans les Taramim, Veronacham Elokim, derrière Erech Pelishtim. Dieu ne leur a pas donné le derrière Erech des Palestiniens, enfin des Philistins. Et oui, quel est le problème? Il y a un Derech Eretz propre à chaque identité humaine. Et Dieu n'a pas voulu qu'il prenne le Derech Eretz des Philistins. Vous voyez quel est le problème du gouvernement actuel, surtout à travers le Misra d'Achinour, le Misra d'Adatot et le Misra d'Apnim. On est en train de contredire ce verset, on est en train de prendre le Derech Eretz Philistins. Ça se lit dans tous les journaux de tous les jours. Ça s'entend dans toutes les radios officielles et à la télévision. On est en train de préparer une identité judéo-palestinienne, israélo-palestinienne, c'est-à-dire Derech Pelishtim. Je crois d'ailleurs que c'est très compliqué ce qui se passe, mais cette tendance-là, et il y a une lueur d'espérance, c'est le conflit entre Yossi Sarid et Shulamit Aloni. Mais peut-être que bon, voyez qu'au fond, si on comprend ce qu'on est en train de vivre, on se rend compte que c'est notre histoire qui nous est racontée. Et ce que je vous dis là, il est bien évident que ne peuvent le voir clairement que ceux qui vivent dans la société israélienne, pas ceux qui sont enfermés dans les ghettos religieux ou francophones ou enfin dans les petits landerneaux. Si on vit la société israélienne au niveau où elle est, on se rend compte que c'est ça qui se passe. Que doucement, on est en train de préparer une identité culturelle judéo-arabe en Israël. Et il faut que les juifs de la diaspora s'en rendent compte de ce qui se passe réellement depuis 3 ans. Et je crois que le slogan le plus fort sur ce problème, c'est Shimon Peres qui l'a dit un jour, ne croyez pas que c'est une blague. Vous savez, ces grands hommes politiques ne disent jamais des blagues. C'est eux les blagues. Mais enfin, ce qu'il dit, c'est malheureusement sérieux. Il a demandé officiellement à ce qu'Israël fasse partie de la Ligue arabe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ah, vous savez pas ça. Rassurez-vous, il y aura pire. Oui. Mais on fait semblant dans un discours de dire. Comme je le fais un peu dans les cours. Mais en réalité, c'est très sérieux. Il y a très longtemps, une espèce de, j'ouvre une petite parenthèse, une espèce de parti cosmopolite au pouvoir en Israël, et il se trouve tant à gauche qu'à droite. Ne croyez pas que ces gens-là sont pas dans le Likoud, ils sont aussi dans le Likoud. Dans le Likoud, ils se servent Likoud, mais dans tous les cas, ils existent des deux côtés. Il y a eu, au moment de la constitution du pays, en nation, en État, il y a eu schématiquement 4 courants de Aliyah très différents. Il y avait les Chilonim, qui étaient les sionistes qui ont fabriqué l'État, et qui ont fait un bilan de l'histoire, 2000 ans d'histoire juive, et ont décidé de se détacher de l'identité juive sociopolitique pour redevenir hébreu, pour pas que le peuple juif disparaisse. Malheureusement, ils ont jeté le judaïsme avec. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien. Il y avait d'autre part les sionistes religieux qui sont venus dans le pays pour être juifs. Enfin, pour ne plus être juif, pour être vraiment juif. Vous voyez la différence. Il y a eu une alliance plus ou moins honnête entre ces deux tendances. Et cette alliance a éclaté. Et puis, troisièmement, il y a eu les Haredim, qui ne participent pas du projet sioniste, de fin d'exil et puis de construction de la nation, mais qui, grâce à l'État sioniste, peuvent vivre en Israël leur foi, le Be'eretz HaKodesh, Be'lashon HaKodesh, réaliser la mitzvah de vivre en Eretz Israël. Ça, c'est les Haredim. Trois courants radicalement différents. Et puis, un quatrième, des juifs cosmopolites, même en hébreu. Et c'est ce courant-là qui a pris le pouvoir il y a 3 ans. Ce sont des juifs cosmopolites qui n'ont qu'une seule, un seul objectif massif, c'est le marché commun économique judéo-arabe. Enfin, je schématise, mais c'est ça qui est en train de se mettre en. Avec, bien entendu, une alliance inconditionnelle avec l'Amérique, qui est de, parce qu'ils sont de civilisation américaine, comme en Russie, ils étaient de civilisation russe, ou comme en Pologne, ils étaient de civilisation polonaise. C'est les juifs cosmopolites, et il faut savoir que ça fait partie de ce problème. La traversée de l'exil nous a fait éclater en quatre tendances, qui sont 5. Parce qu'il y en a une dont on ne parle jamais, et qui est le peuple. Et on oublie toujours que cette société israélienne, indépendamment des courants, existe comme nation. Et de ces juifs-là, qui sont la nation d'Israël, on ne parle jamais. Mais c'est eux l'essentiel. Je ne sais pas si c'est clair, Sophia. Vous avez remarqué cela? On parle de ces quatre catégories que je vais énumérer, mais on ne parle pas des vrais juifs. Enfin, je veux dire des vrais juifs. Ils sont tous juifs d'origine. Mais certains sont originaux comme juifs. Je veux dire, le peuple, Abraham. Donc, on revient au sujet. Quel était le sujet? C'était ces différents niveaux d'identité. Vous voyez à quel point c'est différent. Le peuple, Abraham, dans ce vocabulaire, et les Bnei Israël. En fin de compte, quand ils seront intégrés les uns et les autres, ça fera Abraham Bnei Israël, le peuple des enfants d'Israël. Et alors, le peuple juif, là je vais ouvrir une parenthèse qui me semble très importante, a un très grand handicap dans son histoire. C'est créer l'histoire d'un peuple. Et dans un peuple, il y a tout. Vous avez une paracha, c'est Atemit Zavimayom. Il y a tout. Il y a les grands, les petits, les tordus, les droits, les gauches, il y a tout. Okay? Et alors que, à contraste, une église, c'est l'église des saints. Le peuple, il y a tout dans le peuple. Et alors, le jugement de l'histoire porté par les éditorialistes des grands journaux politiques juge le peuple d'Israël comme si c'était une église. Et alors vous lisez tous ces grands journaux, israéliens y compris, je lis très souvent Haaretz, les éditorialistes de Haaretz jugent le peuple d'Israël comme si c'était un phalanstère de saints. Alors c'est un peuple. Est-ce que vous comprenez la différence? Et c'est un peuple qui a pris sur lui une identité universelle. Et avec le Elevla, nous avons tous les hommes du monde, entre guillemets, dans ce peuple. Nous avons toutes les manières d'être en nous, qui ont été ramenées avec les Juifs. Ce qui se passe aujourd'hui avec les Éthiopiens montre à quel point c'est difficile de faire un peuple de tribus aussi différentes. Et je ne veux pas rentrer dans ce problème. Il est évident que ceux qui les ont accueillis ont été en grande partie des imbéciles. Mais parce que c'est vraiment des choses énormes qui se passent à cause du caractère, je ne sais plus parler français, quand je pense en hébreu, du caractère complètement tordu des fonctionnaires qui s'occupent de l'intégration. Bon, mais ça a été le cas avec les Yéménites, c'était le cas avec les Nord-Africains, c'était le cas avec les Romains, ça a été le cas souvent. Mais ça, c'est l'histoire d'un peuple. Et on juge ça comme si c'était l'histoire d'une église. Est-ce que vous voyez la différence? L'église, c'est l'église des saints. Mais il y a les saints et les saufs. Les saufs, c'est le peuple. Voilà quel est le problème. Il y a un handicap dès le début de l'histoire d'Israël qui est à l'échelle collective le même handicap qu'Adam Arishon à la sortie du paradis. On est sorti d'Égypte comme on est sorti du paradis. Que Gan Hashem qui avait une trahie. Il y a un verset très clair. Hein? Et puis il y a ce même handicap qui s'attache à l'histoire d'Israël. Ça se relie à ce que je disais tout à l'heure, cette dimension de l'universel dont les goïms parlent, à laquelle il croit, mais qu'Israël vit. Et, je ne sais pas comment vous dire. Je vais raconter simplement ce que j'ai fait souvent, un récit de mes soucis au temps de mes fiançailles. Comme vous savez, j'ai marié, comme on dit en anglais, une juive polonaise. Elle est juive, dans tous les cas. Et on avait un grave problème de fiancé. Comment chanter au bébé qui allait naître? Est-ce que les leur chanter en yiddish ou en judéo-arabe? Et je vous garantis que ça n'a rien à voir. Alors finalement, on a eu une idée génie, on va leur chanter en hébreu. Et alors moi, je l'ai attrapé souvent à leur chanter en yiddish, j'en ai attrapé souvent à leur chanter en judéo-arabe. Mais puisqu'il y avait l'hébreu, ça marchait. Mais imaginez, le mariage mixte, yiddish, judéo-arabe, sans l'hébreu, ça donne à manger au psychologue. au conseiller matrimonial. Multipliez ça par 120 cultures différentes. Et c'est 120 000. Parce que chacune se subdivise à l'infini. Ça, c'est l'histoire d'un peuple. Une église, un phalanstère, c'est tout à fait autre chose. Voilà, je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. Hein. C'est ça qui se met en place à la sortie des Juifs. Bien. Alors, deuxièmement, la deuxième question, quelle heure sommes-nous ? On a le temps. C'est précisément ce mystère. Pourquoi on ne fait pas allusion au Sinaï ? Pourquoi on n'allume pas ici qu'il fallait continuer par le désert pour passer au Sinaï et recevoir la Torah ? Je voudrais, puisque j'ai qu'un quart d'heure, commencer par un premier verset qui se trouve plus haut dans la paracha de Shemot. On va voir le chapitre 3, verset 12. Chapitre 3, verset 12, c'est le moment de la vision du soir. Voilà, parce qu'il y a eu la vision du buisson. Dieu se révèle à Moïse 40 ans après que Moïse avait pris de lui-même l'initiative d'intervenir pour les épreuves des Égyptiens. Moïse s'était enfui chez Jéthro. 40 ans après, Dieu se révèle. Dans la vision de 800 ardents. Et Moïse a des doutes. Est-ce que sa mission va réussir? Il avait déjà l'expérience que tant les Égyptiens que les Hébreux allaient refuser. En prenant le verset 12, Dieu dit à Moïse, « Vayomer, qui est Yahimar, je serai avec toi. Vezelichaot Ganochish l'Artira, et ce sera pour toi le signe. Et voilà le signe que tu auras, qui anochish l'artira, que c'est bien moi qui t'ai envoyé. Mais aussi à Mitzrayim, lorsque tu feras sortir le peuple, regardez bien, surtout Anochi, que c'est bien moi, et le peuple de l'Égypte, Tahavdounet Elohim à la Harazé. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Et on se trouve au Sinaï, chez Jéthro. Donc, il semble bien qu'il était prévu qu'à la sortie d'Égypte, il fallait venir à la montagne du Sinaï pour la Ravoda, dont il est fait allusion ici, au Sinaï. Et donc, il y a une espèce de décalage dans l'ordonnance du récit. En fait, ce qu'on apprend dans la paracha de Béchalar, c'est que, étant donné que le peuple n'est pas préparé à aller de l'Égypte à Jérusalem, il lui faut un stage d'achèvement de libération. Un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que Moïse les forme par rapport à leur nouvelle identité, à l'abri des problèmes des sociétés humaines. Et 40 ans du désert, c'est suppression des problèmes économiques, militaires. Il s'est entouré des nuages de la gloire, il est préservé des nations hostiles. Il y avait le puits de Myriam, c'est bien de Myriam le puits, qui les accompagnait. Il y avait la manne pour les nourrir. Et ils n'avaient aucun problème économique, aucun problème de société. Ils étaient, si j'ose dire, à la charge du Misra de Tatot pour pouvoir étudier la Torah. C'est clair. C'est le seul peuple et étudier sa constitution avant que son histoire ne commence. Chez tous les peuples, c'est en cours d'histoire que la constitution apparaît. Mais là, il y a un cas particulier. Et donc, au début de la parasha de Béchalar, on s'aperçoit que le peuple n'est pas encore prêt, par conséquent que Moïse va avoir des problèmes avec ce peuple, et donc, il faut les amener au Sinaï pour habiliter la mission de Moïse. Donc c'était prévu. Pourquoi il n'y a pas d'allusion dans Béchalar? Vous avez compris la question? Quelqu'un a une réponse? Que je reprenne souffle. Est-ce que la question est claire, hein? Ce verset que je suis en train de vous lire contredit tout ce que je vous ai dit. Puisqu'il semble bien que déjà, au moment de la vision du buisson ardent, c'est prévu. Mais aussi, « Acha et Aham imitzraïm, ta'adun et telokim ala azé » Je ne rentre pas dans les détails d'exégèse, hein, c'est beaucoup plus, je ne vais pas dire compliqué ou complexe, c'est beaucoup plus riche que ça. Mais je schématise l'essentiel sur notre sujet. Voilà que Moïse sait qu'il faut les amener au Sinaï, donc le Sinaï est prévu. Pourquoi dans la parasha de Béchalar, il n'y a qu'une allusion à cela? Bon, alors je commence un peu l'étude de la réponse. En fait, il y a une difficulté dans notre verset. Regardez, lorsque tu feras sortir le peuple de l'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Mais si Moïse a besoin d'un signe pour habiliter sa mission, c'est avant de les faire sortir. Est-ce que c'est clair? Moïse a des difficultés avec ce peuple en Égypte. Alors Dieu lui dit, ben, amène-les ici, et là je t'habilite. Mais il faut d'abord les faire sortir. Vous avez compris la difficulté? Alors la réponse est très simple. C'est-à-dire, toi Moïse, débrouille-toi. Fais-moi sortir ce peuple d'Égypte. Débrouille-toi. Si tu ne sais pas comment faire, tu n'es pas Moïse. Mais je parle à Moïse. Donc tu sauras comment faire, sinon tu n'es pas Moïse. Très souvent, on voit ce dialogue entre Dieu et Moïse. Si tu es Moïse, prouve-le. Alors je n'ai pas à te dire comment il faut être pour être Moïse. C'est toi Moïse. Alors fais-moi sortir ce peuple d'Égypte. Et si tu as eu des difficultés, alors viens ici au Sinaï et ils verront ce qu'ils veulent. Rendez-vous de guet-apens. Bon, vous voyez quel est le problème. Et comme Moïse a eu des difficultés, alors il a fallu cette parenthèse du Sinaï. Mais le plan primordial, c'était pas du tout de passer au Sinaï, c'était d'aller directement d'Égypte à Jérusalem. C'est ça que je voudrais répéter suffisamment de fois pour que ça soit clair. On est tellement habitué à cela. L'ordre du récit tel qu'il s'est passé, sorti d'Égypte, Sinaï et Israël, qu'on se rend pas compte que c'était pas le projet premier. Le projet premier, c'est Égypte-Israël. Maintenant, si tu as des difficultés avec ce peuple, amène-les dans le détour du Sinaï. Alors, c'est un sujet extrêmement important. Je sais par expérience, c'est pas la première année qu'on l'étudie. Je sais par expérience, il faut du temps pour arriver à se déshabituer de cette routine d'étude que je vous ai signalée. Je vais vous dire pourquoi c'est important comme sujet. Parce que le peuple juif est divisé sur cette question. Vous avez une partie du peuple juif, y compris les Haredim surtout, qui pensent que c'est comme ça. On sort d'Égypte pour aller au Sinaï. Et ensuite, une fois qu'on a reçu les textes de la loi, eh bien, on peut aller n'importe où jusqu'à l'arrivée du Messie. Et après, on verra qu'est-ce qu'il y a avec le pays de Canaan. Okay? Et ça, c'est l'idéologie haredite, mais c'est indépendamment de l'idéologie haredite, la tendance d'énormément de Juifs de l'exil qui sont habitués à ce rythme-là. On sort d'Égypte pour aller au Sinaï, on a reçu la Torah. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va témoigner de la Torah dans le vaste monde jusqu'à l'arrivée du Messie, alors qu'il n'est pas du tout parlé du Messie là-dedans. Hein? C'est un autre sujet. Jusqu'à l'arrivée du Messie, et on verra bien qu'est-ce qu'on fait avec la terre des ancêtres. Le Messie nous dira. Vous voyez, une déviance totale à partir du récit de la Torah. L'autre partie du peuple, et c'est essentiellement les sionistes, c'est on sort d'Égypte pour redevenir hébreux sur la terre des Hébreux. Et c'est ça, les temps messianiques. Et la Gemara fait foi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Takala, panne chère, une panne qui nous a coûté très cher, il s'est passé un incident très grave, la faute du premier homme à l'échelle collective, qu'on n'était pas capable, alors il a fallu passer au Sinaï pour reprendre force. Mais, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après Moïse et Josué, c'est pas Isaïe. Après Moïse, je répète ce que je dis, hein? Après Moïse et Josué, c'est pas Isaïe. Et alors que... Bon, bref, il n'y a pas de alors que. Ça va nous prendre du temps. Mais vous savez à quoi je fais allusion. Et on s'est tellement habitué à cela qu'on n'arrive pas à se déprendre de cette routine de pensée. Alors c'est pourquoi cette paracha est très importante. Il faut relire comme c'est écrit. Normalement, le projet, c'est pas le Sinaï, c'est Tzion. Étant donné qu'on n'était pas capable, alors il a fallu le Sinaï. Et j'essaie de vous dire pourquoi ce sujet d'exégèse est très important idéologiquement. Parce que nous avons souvent des conversations, et en général c'est des conversations de sourds, avec ces juifs qui pensent que pas du tout. On est sorti d'Égypte, ben, très bien. Et pourquoi pas aller en France, témoigner de la Torah en attendant le Messie. Vous avez vu la gravité du problème. Alors tant que c'est des juifs, c'est des juifs. Mais jusqu'à quand c'est des juifs? Parce que nous avons déjà vécu des événements de ce genre. Et que c'est séparé du peuple juif, cette tendance de déviance à partir du projet réel de la Torah. On nous a déjà raconté cette histoire. On a reçu la Torah, et bien il faut en témoigner dans toutes les errances du monde jusqu'à l'arrivée du Messie. Et d'ailleurs, entre nous, il est arrivé. Et je ne pense pas aux apparitions. Mais vous voyez quelles sont ces déviances à partir de cette bifurcation historique. Bon, je crois que je suis arrivé un peu à éclairer la deuxième question. Pourquoi il n'y a pas d'allusion au Sinaï dans ce texte? A posteriori, on la trouvera. Mais c'est a posteriori. A priori, c'est 11 jours de marche à Havasarium jusque Jérusalem. Bien, quelle est ta question?
Pourquoi est-ce que Moshe, dans sa demande à Pharaon, ne lui dit pas ce programme-là, mais lui dit Vayavduzi Bamidba?
Vayavduzi Bamidba. On a vu ça la semaine dernière, hein, si je me souviens bien. Il y a une stratégie. Je vais la formuler à l'échelle de l'histoire juive. Il y a une stratégie vis-à-vis des goyim. Moi, j'ai vécu ça, à la manière de l'histoire des juifs d'Afrique du Nord chez les Arabes. Mais c'est vrai aussi à un autre niveau en sociologie française. Si on dit aux goyim, nous sommes une nation différente de la vôtre, ils ne se montrent pas. Si on leur dit nous sommes une religion différente de la vôtre, ils acceptent. Et c'est clair ce que je dis. Okay? Et alors là, ils respectent. Vous voyez, je rappelle les Arabes, on disait, je vais vous dire ça en arabe pour ceux qui savent encore l'arabe, Hajna ou Hajum. Ça veut dire nos choses à nous, vos choses à vous. Mais il s'agit de la mosquée et de la synagogue. Surtout pas de dire nous sommes, nous, la nation d'Israël. Est-ce que c'est clair? Alors, regardez en sociologie française. Napoléon a accepté que les juifs soient une confession religieuse. Une minorité nationale, jamais de la vie. Alors que nous sommes une nation. Nous ne sommes pas une religion. Nous sommes une nation qui a sa religion à l'échelle collective. La preuve, c'est qu'un juif, même athée, c'est un juif. Alors qu'un cardinal, même religieux, c'est pas un juif. c'est toujours la surprise des chrétiens quand ils découvrent ça. Je veux dire, comment j'ai compris ça dans ma vie personnelle. Je m'étais occupé des étudiants juifs après la guerre à Paris, des présidents de l'UEJF. Je ne sais pas s'il y a des anciens de l'UEJF dans l'UEJF. C'était une UEJF glorieuse, comme on dit toujours, en parlant de son passé. Composé. Comment on dit le passé? Le passé simple, mais c'était un passé compliqué. Et alors, j'avais la charte de l'UEJF, il s'agissait des juifs de confession religieuse israélite. Mais 90% de mes étudiants étaient athées. Alors j'avais un problème. J'avais commencé tout un programme de réunion avec les étudiants catholiques, les étudiants protestants, j'arrêtais ça tout de suite. Études publiques. Alors, les protestants surtout, c'est à bout portant. Hein. Dès qu'on parlait d'une chose, ah oui, Jérémie 32,15. Bien, psaume 98,20, et là on attendait encore, peut-être vous 43,45. Mais alors, ça leur sortait la Bible. Et les juifs, pas, rien. J'avais tellement honte qu'on a arrêté les habitudes. Mais le problème, c'est que c'est les juifs quand même Et alors, il fallait trouver un facteur commun. Le facteur commun est national, religieux. Dans la civilisation contemporaine, c'est une affaire privée. Mais il y avait toute une stratégie avec le ministère de l'Intérieur. Qu'un juif, même pas religieux, fait partie de l'UGF. C'est des problèmes sérieux que je vous dis là. En même temps, j'étais le commissaire général des éclaireurs israélites de France. Et j'avais deux dossiers à la préfecture. Le dossier chez les juifs, c'est le dossier des étudiants. Et le dossier chez les israélites, c'est le dossier des éclaireurs. Et je peux vous garantir que ce n'était pas simple de naviguer là-dedans. Mais le problème, je m'en suis sorti parce que la femme du préposé au dossier des éclaireurs, c'était la couturière de ma femme. Et vous savez, il y a des miracles. Alors en tout cas, pour revenir au problème, c'est que la dimension de l'histoire d'Israël, c'est pas simple à définir en catégorie goy. Il s'agit d'un peuple, d'une nation, qui a sa propre vocation religieuse. Inverser les données, c'est l'hérésie fondamentale. Je sais que je vous étonne en disant ça, parce que figurez-vous, j'ai une kippa sur la tête, ce qui, par les temps qui courent, bref. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien clair. Nos problèmes d'identité sont d'abord des problèmes nationaux. Les juifs redevenant hébreux, il y a une Torah à la clé, et pas l'inverse. Est-ce que c'est clair? Et vous voyez, c'est un problème et pour les Haredim d'un côté et pour les laïcs de l'autre. Parce qu'il y a une alliance souterraine entre laïcs et Haredim contre les vrais juifs. Bon, j'en dis pas plus, mais c'est ça que nous vivons. Et la preuve, c'est que toute cette semaine, Pérez négocie avec Bnei Brak pour leur construire une ville, à condition que, politiquement, les Haredim donnent la majorité aux laïcs. Vous voyez comment ça se passe, hein? Vous savez ça. Donc, et alors, il faudra qu'un jour on sorte de là. C'est tellement englué là-dedans, on ne comprendrait rien si ce n'était pas écrit dans la Torah. C'est ça que je vous dis. C'est grâce au récit de la Torah qu'on peut y comprendre quelque chose. Okay. Plus fort, je vous en prie.
Vous avez dit que chaque fois qu'on arrive à plein exil, c'est donc le juif a un problème à sortir de l'exil pour revenir en Israël.
Une partie du peuple juif. Oui.
Et comment
c'est
ensemble le fait que
les Khamouchim et l'eau Bnei Israël. C'est un niveau d'Israël qui s'appelle Bnei Israël. Mais les niveaux Ham, c'est eux qui ont le problème.
Justement, qui c'est qui fait des difficultés à sortir? Ce sont les
vrais.
Les vrais, ceux qui ont l'héritage.
C'est l'inverse.
Ils sont pas eux.
Heureusement, j'ai posé la question.
C'est l'inverse. Ils sortent avec les Bnei Israël. Donc ils voulaient sortir. On les a obligés à sortir.
Oui.
Oui. Alors, comment ça marche ensemble?
Oui, très bien. Mais regardez, je vais un peu simplifier la question. Okay? Les Bnei Israël, eux, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas besoin de la sornoute. Okay? C'est leur âme qui a besoin. Mais le Elav, c'est une partie du Ham. Ceux qui sont venus de l'extérieur. Je vous ai dit, il y a des niveaux. Au niveau Nefesh, il y a le Elav là-dedans. Mais il y a le Elav d'Israël, au niveau Ruach, au niveau Neshama. Et simplement, et il faut arriver au niveau Chaya Yahida, où ce soit les Bnei Israël Mamash. Je ne sais pas si c'est clair. Hein? Et regardez bien. Je vous conseille d'étudier cela dans un livre très important d'un des élèves du Gaon de Vilna qui s'appelle Kolator. L'élève s'appelle Rabbi Hillel Mishklov et qui explique toutes ces questions-là. Déjà, au niveau de l'identité hébraïque, au niveau de l'identité des patriarches, il y a ces deux dimensions messianiques. Israël chez les nations, et où sont les critères que la mission est accomplie pour sortir des nations, ou Israël chez lui. Ce conflit dans l'histoire d'Israël, c'est Joseph-Juda. Mais nous avons au niveau des patriarches. Et il y a dans une page de ce livre, Kolator, quelque chose d'extraordinaire. Si ce n'est pas les mères d'Israël qui savaient diagnostiquer par lequel des enfants passent l'Israël authentique, les patriarches, eux, étaient aveuglés par leur amour pour leurs enfants. Abraham, eh bien, il faut que Dieu lui dise que c'est Isaac et c'est pas Ishmaël. Mais Sarah le sait. Isaac, eh bien, il faut que Dieu lui dise que c'est Jacob et pas Esaü. Rebecca le sait. Et ainsi de suite. C'est très important. On a une liturgie des pères d'Israël mais une liturgie des mères d'Israël, qui sont plus profondément Israël que les pères d'Israël. Alors déjà, au niveau de l'identité hébraïque, vous avez cette double dimension, je l'explique. Abraham est né dans l'exil, et puis il meurt en Eretz Israël. Mais entre-temps, il se cherche, il essaye un nouvel exil. Abraham a eu un voyage en Égypte. Et puis quand il s'est rendu compte que c'est ni Babel ni l'Égypte, alors c'est Israël. Jacob, la même chose. Lui, il est né en Israël, mais il va mourir en Égypte. Et il n'y a que Isaac qui est vraiment d'Israël. Et toujours les droits, le mérite sur Eretz Israël, c'est grâce Barak et Batitzrak, Ayon, les Avantiscours. C'est grâce à Isaac qu'on a vraiment des droits clairs sur Eretz Israël. Voilà. Quand on fait partie, comme vous, comme nous, comme moi, de cette dimension d'Israël hébreu, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a une deuxième dimension qui est Israël chez les nations. Moi, je dis souvent ça quand je rencontre le grand rabbin de France, qui s'appelle Joseph, que grâce à Dieu, moi, je m'appelle Judas. Mais, et le plus fort, c'est qu'il comprend. Mais les Juifs de Judas ne comprennent pas les Juifs de Joseph. Et les Juifs de Joseph ne comprennent pas les Juifs de Judas. Nous sommes, nous, les sionistes, des Juifs de Judas. Mais il y a les Juifs de Joseph. Et les Juifs de Joseph, leur rêve s'enracine chez les patriarches. Alors oui, on n'a pas besoin du Hayavla pour cette difficulté. Est-ce que c'est clair, ça? Attends, mais oui, c'est pas vite. Hein. Ok.
Bien. C'est le même âme, justement,
c'est une
problématique. C'est celui-là qui voudrait
rentrer
en Égypte.
Qui voudrait? Bien sûr. D'accord. Écoutez, je vais vous dire. Avant, parce que je vais vous dire. Je suis fabriqué comme ça que je ne peux pas répondre à deux questions à la fois. Alors, avant d'entendre la suite, c'est cette résistance devant la difficulté, elle est le propre de tous ces niveaux qui s'appellent âme, y compris le LLA. Vous savez, tous ces juifs qui font leur Yerida, et tous ces juifs qui n'ont pas fait leur Aliyah, ne croyez pas que ce n'est pas des bons juifs. On les verrait au XVIe siècle, on les verrait au XIXe siècle, c'est la résistance juive devant la perte d'identité. Mais pourtant, confronté à la difficulté, on a ce que la Torah a dit. Ça, c'est pour le premier point. Ensuite.
Barour, ça veut dire qu'il y avait quand même une partie de
et bien sûr, c'est ce qui s'est passé dans notre temps. Et qui a commencé à être Hamouchim Bnei Israël? La brigade aïehoudite, la brigade juive. Et c'est la brigade juive que l'état-major de Tsar est sorti. Mais dans le vaste monde juif, y compris ma présidente de la Bizo, un juif faire la guerre, Halila Behas. Il y a la guerre. Il faut vivre ces choses-là. Vous voyez, il faut se déconditionner de notre manière d'être juif à l'échelle ponctuelle pour comprendre ce que la Torah dit à l'échelle collective. Il y a dans le peuple juif, et c'est le peuple juif, ces dimensions d'identité qui résistent. Regardez, tous ces Bahouri et Yeshiva de Nebrak qui sont horrifiés à l'idée d'aller à Tzahal, c'est pas des juifs, c'est des juifs. Mais ils sont horrifiés à l'idée qu'on leur dise « mais ». Et ils nous inventent des histoires de fous que nous faisons la guerre dans la yeshiva et que c'est notre mérite qui fait que au Liban, il y a moins de soldats qui tombent. C'est de la mystique non-juive. Bon. Mais ils en sont persuadés. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis chez eux et des rabbins normaux, si on ne sait pas qu'ils sont charésus. Et puis, ils disent ça.